France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. C'était en 1950, en février 1950, sur la chaîne nationale. Au micro d'André Parinaud, Colette, Madame Colette, racontait sa vie, ses premiers livres, non signés d'elle, comme l'on sait, la série des Claudine. Elle évoquait également Marcel Schwob, Catulle Mendès, Jean de Tinan, auteurs qui, eux aussi, travaillaient pour Willy, son époux. Elle, Colette, à 22 ans, écrivait dans ce funeste petit appartement de la rue Jacob, sur un petit bout de table, l'épaule de travers. Elle écrivait sur un petit cahier d'écolière. Des entretiens célèbres que l'on réécoute toujours avec bonheur. Voici les deux premiers rendez-vous de cette série.
Vous allez entendre Entretien avec Madame Colette, recueilli et présenté par André Parinaud. Pour appartenir à un moment de l'histoire de la littérature française, Madame Colette ne reste pas moins une grande dame inconnue. Nulle plus qu'elle, cependant, ne fut davantage mêlée à la vie des 50 premières années de ce siècle, par son existence même et par son œuvre. Mais nulle aussi n'a plus délicatement et habilement protégé, à la façon des chattes peut-être qu'elle aime tant, sa personnalité et les ressorts de sa pensée et de ses actes contre la curiosité. Nous en sommes réduits à la légende. L'idée maîtresse de cette émission est d'utiliser chacun des ouvrages de l'œuvre de Madame Colette pour pénétrer à travers eux dans l'intimité de son personnage en démontrant son mode d'affabulation, ses soucis, ses intentions, son évolution et par là même l'éthique et le visage de l'auteur. On ne s'étonnera ni des redites, ni des retours en arrière, ni des négations, ni des silences. La vie n'est pas si simple et la recherche de la vérité moins encore. Et s'il fallait une exergue à ce premier entretien, on pourrait en retenir l'enseignement, à savoir qu'un être se livre d'autant moins qu'il a du génie, joint à un don étonnant d'improvisation et de répartie. C'est au printemps de l'année 1900 que parut Claudine à l'école. Un siècle venait de s'éteindre dans les brumes du symbolisme et l'entrée du personnage de Claudine fut un peu comme l'éclatement d'un gros bourgeon ivre de vie. Sous la plume de Rachilde, par exemple, dans le Mercure de France du mois de mai 1900, on trouve cette présentation fulgurante. Je viens de lire Claudine à l'école. Ce n'est ni un roman, ni une thèse, ni un journal, ni un manuscrit, ni quoi que ce soit de convenu ou d'attendu. C'est une personne vivante et debout, terrible. Et encore, c'est écrit à la diable. Claudine parle et se sert de la langue patoise de son pays. Elle est moderne, elle est voyou, elle est antique, elle est sortie de l'éternel. Et puis enfin, cette phrase qui ouvre un véritable débat, que Willy le boulevardier, le potinier, le brillant auteur, ait créé ce personnage de Claudine, ou qu'il l'ait cueilli des mains aimées d'une femme comme on y prendrait des fleurs, je m'en moque, il y a là un chef-d'œuvre, voilà tout. On nous permettra de ne pas être de l'avis de Rachilde, car le détail a son importance. Mais je souhaiterais, Madame Colette, que vous-même apportiez les éclaircissements désirables. Combien de temps a duré ce qu'on a pu appeler le mystère Willy, Willy, auteur des Claudines ?
Je pense qu'il a duré longtemps, le temps même qu'il me fallut pour écrire 4 volumes. Mais ce mystère était non seulement soigneusement entretenu, mais il était encore favorisé par moi.
De quelle façon ?
La signature, qui n'était pas celle du véritable auteur. Et puis, j'avais promis de ne pas le dire. Et j'ai l'habitude, ma foi, de tenir presque toutes mes promesses.
Vous étiez mariée à M. Willy depuis combien de temps, madame, lorsque vous avez écrit Claudine ?
Je ne sais pas, attendez, quand j'ai écrit les Claudines, voyons, il y avait 4 ou 5 ans, je ne sais pas très bien.
Vous aviez alors quel âge, madame, lorsque vous avez écrit Claudine à l'école?
Je sais pas, ça devait être dans les 22 ans, oui, pas beaucoup plus, puisque je n'ai séjourné que 3 ans dans ce funèbre petit appartement de la rue Jacob.
Mais dans quelles conditions avez-vous écrit Claudine?
Quelles conditions? Dans quelles conditions? Non pas de contraintes, mais tout de même, on me l'avait demandé. Et j'ai travaillé d'une manière inconfortable parce qu'il n'y avait pas de bureau dans la maison et un petit bout de table, une épaule de travers, une mauvaise chaise. Voilà les souvenirs que mon premier volume m'a laissé.
Mais je crois que M. Willy avait fait plus que vous demander d'écrire Claudine. Il vous l'avait presque ordonné, n'est-ce pas?
Ordonné. Ce sont des choses... Est-ce que vous n'êtes venu que pour me rappeler une époque déplaisante de ma vie?
Certainement pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous me disiez pour quelle raison vous vous êtes plié de si bonne grâce aux volontés de M. Willy.
Et quelle raison aurais-je eu de me refuser à un essai qu'on me demandait?
Il vous était en tout cas toujours possible de vous refuser, par exemple, à un travail de nègre, car dès le départ, vous saviez que Claudine à l'école ne serait qu'un travail de nègre.
Ah oui, mais je travaillais avec toujours une issue possible, qui était la seule d'ailleurs que j'avais prévue, c'est de penser que ça ne serait jamais publié.
Est-ce que M. Willy, dès le départ, vous a aidé à écrire Claudine par des conversations, par exemple, en vous indiquant des personnages ou des situations?
Plutôt par des indications, en effet. Oui, je ne vois pas d'autre manière qu'il ait eu de ce que vous appelez, de m'aider. Non, je ne vois pas bien. Ça ne peut pas s'appeler une aide, non. Plutôt un conseil. Un conseil, deux ou trois conseils. Du piment.
C'était son mot.
N'ayez pas peur de pimenter, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de pimenter.
Est-ce qu'il nous indiquait de quelle façon pimenter? Est-ce qu'il nous disait ce qu'était pour lui le piment?
Il me demandait que ce fût, que ses confidences, s'il faut dire, de petite fille encore, fussent un peu moins, non pas de petite fille, mais fussent un peu moins pour petite fille.
En tout cas, dès le départ, le principe de Claudine était posé dans l'esprit de M. Willy. Il savait ce que vous alliez faire.
Non, pas du tout. Non, je vous assure, non. Moi non plus.
Et quelle a été...
Nous avions tous les deux à ce moment-là l'excuse de l'ignorance.
Et quelle a été sa première réaction en lisant le manuscrit, Claudine?
En lisant le manuscrit, Claudine, oui, quand j'ai eu fini, alors j'ai remis à la maison mère ce que j'avais écrit sur des cahiers, dont d'ailleurs il m'avait fallu retrouver les cahiers, les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça, je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers, et puis j'ai écrit, et quand j'ai eu fini, j'ai remis ma copie, et M. Willy a pris connaissance des manuscrits, et il a dit tout de suite, ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas, à quoi ça pourrait servir, et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très, très juste et très... sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école.
Il y a donc eu une redécouverte de Claudine par la suite.
Ah, mais je crois bien. Oh, quelle vieille histoire. Il y a eu un an, oh oui, un an après, probablement. Un an après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un, et puis il a repris le second, et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait pas mal. Et alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit, nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ohlendorf. Et C'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Mais il n'avait pas oublié avant de signer Willy, n'est-ce pas?
Il ne m'avait pas fait part de ses intentions.
Mais parmi les amis de votre ménage, le petit cercle qui vous entourait, le doute quand même n'était pas total. Certains d'entre eux se doutaient.
Oui, non, pas total, non. Il y a eu plusieurs, j'en oublierai. Ne croyez pas que ce soit volontairement. J'en oublierai si je vous dis que, par exemple, Catulmades et puis Marcel Schwab, qui était notre ami, notre voisin, et puis Pierre Weber, qui était déjà destiné à faire le même métier, dirais-je. Et puis, à ce moment-là, non, je ne crois pas que Villermoz était déjà entièrement adonné à la rédaction des lettres de l'ouvreuse. Mais enfin, ce n'est pas la peine que nous cherchions ici. Et non, Jean Tinon. Ah ben oui, il y avait Jean Tinon. C'est vrai. Aussi. Mais il y en avait d'autres.
Weber, en tout cas, lui, se doutait parfaitement que c'est vous qui aviez écrit Claudine, n'est-ce pas?
Oh, il ne s'en doutait pas, il en était sûr. Non, non, il en était sûr.
Qu'est-ce qui vous fait croire?
Quant à Madès, je me souviens d'un jour où, à la fin d'un déjeuner chez Madès, où nous avions déjeuné, Dieu merci, dans la compagnie déjà de Marguerite Moreno. À ce moment-là, pendant que nous étions seuls, un moment, Madès m'a dit, d'une façon assez brusque, il m'a dit, c'est vous qui avez écrit les Claudines. Comme j'avais promis de ne pas le dire, j'ai protesté, et il m'a interrompu tout de suite, il m'a dit, mais ce n'est pas une question que je vous pose. C'est une chose que je vous dis simplement que plus tard, vous ne savez pas très bien ce que vous avez fait, mais je crois que plus tard, vous découvrirez ce que c'est que d'avoir, ou malgré soi, ou de bon gré, d'avoir créé ce qu'on appelle un type. Vous avez créé un type. Et ça vous suivra pendant des années et des années comme une sorte de récompense, mais en même temps de châtiment. Et ici, je voudrais vous dire quelque chose qui légitime la vue de l'avenir qu'avait eu Madès, car c'est l'été dernier que j'ai reçu un catalogue où il y avait, parmi les créations d'une maison de colifichets, Col Claudine, bordé d'un feston. Il y a Claudine à l'école, bordé d'un feston tout simple. Claudine à Paris, pour une blouse un peu plus habillée. Et puis, il n'y avait pas de Claudine en ménage, non, non, non. Et ça finissait par Claudine s'en va pour le voyage. Et puis, voilà tout. Alors, j'ai tout de même pensé ce jour-là, encore une fois, à Catulmades et à sa prédiction de devin.
Vous dites toujours, madame, j'avais promis le secret. Comment aviez-vous promis le secret? Dans quelles conditions avez-vous promis le secret?
Eh bien, comme on promet.
Il vous l'avait demandé.
C'était comme dire... Il y a une jeune fille qui venait me trouver en me disant que ses parents l'avaient maudite. Je dis, comment maudite? Ça se fait encore, ça? Je dis, comment maudite? Mais comment vous ont-ils maudite? Et elle m'a répondu avec beaucoup de naturel. Mais comment maudit? Eh bien, je vous dirais que j'avais promis. C'est tout, ça me suffisait.
Avez-vous le sentiment, madame Colette, que votre carrière a tenu à un cheveu? Je ne veux pas dire à un cheveu de monsieur Willy, puisqu'il n'en avait pas, mais à
pas
un
beaucoup.
Cheveu.
À un cheveu? Eh bien oui. Peut-être que s'il n'avait pas rangé ses tiroirs ce jour-là, il est probable que je n'aurais jamais écrit.
Comme il serait intéressant de voir vos premiers brouillons. Avez-vous conservé les brouillons de Claudine à l'école?
Non, j'ai quelques cahiers. J'ai les cahiers de Claudine au ménage, les cahiers de Claudine s'en va. J'ai des cahiers. Je n'ai pas de brouillons, Non. Je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un brouillon.
En tout cas, que sont devenus les premiers cahiers de Claudine à l'école?
Ils ont été détruits par les soins de M. Willy, parce qu'il avait donné à Paul Barlet, qui était son très bon, très gentil, très affectueux secrétaire. À ce moment-là, Paul Barlet avait reçu l'ordre de détruire les cahiers.
Dans quelle intention ?
Je ne sais pas.
J'aimerais que vous me le disiez, que vous fassiez appel à vos souvenirs. Pourquoi M. Willy a-t-il donné l'ordre de détruire les premiers cahiers de Claudine ?
Je ne sais pas. Peut-être un amour propre d'auteur.
Ah, j'aimerais savoir si vous avez conservé le reste des brouillons de Claudine, le reste des premiers cahiers.
Oui, oui, je les garde.
Est-ce qu'il vous arrive de les relire ?
Est-ce que...
Il vous arrive de relire ces premiers cahiers ?
Oh non, mais de regarder de temps en temps une petite note marginale. Maintenant, c'est tout à fait inoffensif.
Sans Monsieur Willy, auriez-vous écrit Claudine à l'école, je veux pas dire avec le
jamais,
même talent.
Jamais, jamais, je ne vous laisse même pas finir votre phrase. Je n'aurais jamais écrit ni ça ni autre chose.
Est-ce que vous vous êtes senti quand même engagé par quelque façon par Claudine ? C'était quand même une part de vos souvenirs, une part de vous-même.
Oui. Une part, mon Dieu, c'est plutôt un paysage qu'un récit genre mémoire. Je n'aime là-dedans, je n'aime plus de tout cela, je n'aime plus que certains paysages. Parce que les paysages, eux, du moins, ils étaient authentiques.
J'aimerais justement que vous nous preniez par la main et que vous nous emmeniez dans ce paysage de Claudine, à sa façon. Vous vous souvenez ? Je m'appelle Claudine, je suis née à Montigny en 1884 et probablement je n'y mourrai pas.
Qu'est-ce qui est préambule de mensonge, ma foi. Je ne m'appelle pas Claudine, je ne suis pas née à Montigny, je ne suis pas née en 1884. Enfin, vous voyez.
En tout cas, est-ce que vous
pouvez... C'était presque déjà faire œuvre de romancier que de mentir, c'est bien.
Ah, est-ce que vous pouvez dépouiller certains de vos personnages de leur affabulation et de nous les présenter tels qu'ils étaient. Je pense par exemple à la grande Anaïs, que vous nous présentez comme une personnalité peu banale, menteuse, oui. Filouteuse, flagorneuse, traîtresse, oui. Impossible à émouvoir. Est-ce qu'elle a existé ?
J'exagérais, mais j'espère bien qu'elle existe encore. Et je crois même qu'elle a fait un très beau mariage.
Est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette grande Anaïs ?
D'Anaïs ? Non.
Absolument rien.
Oh, c'est assez comme ça. Et puis vous êtes venu ici, vous qui êtes jeune, vous venez ici et vous me demandez de me rappeler ex abrupto des souvenirs qui datent de combien ? De 50, 60 ans ? Vous n'avez pas honte ?
Il me semblait, en tout cas, madame, tout en gardant, que vous conserviez une petite photographie de la grande Anaïs. Est-ce que je me trompe ?
Oh oui, mais oui, je l'ai encore. Mais vous savez, mes papiers sont tout de même dans un certain désordre. Et ça n'est pas maintenant que je chercherai la photographie de la grande Anaïs. Elle est debout, c'est une photographie tronquée, et elle tient le guidon d'une des bicyclettes de ce temps-là, enfin, de cet instrument presque préhistorique, qui était une bicyclette de ce temps-là.
J'aimerais savoir aussi si toutes les autres existaient. Vous savez, les deux jumelles Jobert, Marie Bellhomme, la petite Claire...
Mais non.
Absolument
non,
pas.
C'est de l'invention, tout ça.
Magnifique invention, en tout cas. Et Aimé Lanthenay. Oui. Vous savez, cet Aimé Lanthenay, enfin, cette nature de chatte caressante, délicate, frileuse, incroyablement câline que vous décrivez si bien et qui a un tel rôle
dans
votre livre.
Je ne sais pas si je la décris bien, mais autant que je puisse me la rappeler, mon Dieu, il ne s'agit là simplement qu'une de ces passionnettes qu'ont inévitablement une élève de la grande classe pour l'institutrice adjointe.
Doit-on considérer Claudine à l'école comme une autobiographie même partielle ? Voilà la question que beaucoup de vos lecteurs se posent. Et pour y répondre, je vous demanderai de me préciser quelles ont été les bases romanesques de Claudine.
Romanesque ?
Comment l'avez-vous conçue ? En partant de quel personnage ? Et en vous fixant
Quelles idées de base ?
Non, je n'ai pas eu d'idées de base. Ne me tourmentez pas avec des idées comme celle-là. Non, je n'ai pas eu d'idées de base.
Vous n'aviez pas de plan non plus ? Vous n'avez jamais fait aucun plan pour
mon
roman ?
Non, je n'avais pas de plan. Et j'ai mieux avoué tout de suite, pour que vous ne me tourmentiez pas davantage, j'ai mieux avoué tout de suite que je continue à ne pas faire de plan littéraire.
Il me semble que vous pourriez me conter là une petite anecdote que vous m'avez contée autrefois concernant les plans littéraires que vous suivez.
Plutôt l'absence de plans littéraires, je suis. Voyez, si vous voulez. Je me souviens que cet homme charmant que j'avais épousé en seconde noce et qui s'appelait Henri de Jouvenel me vit sans doute assez embarrassé dans un travail, comme vous dites, romanesque, puisqu'un jour il me dit qu'un bon roman ne saurait se passer de plan, et il m'offrit même, pour me montrer comment on faisait, il m'offrit même de me rédiger pour moi un plan. Je crois bien sans en être sûr, qu'il s'agissait de Chéri. Alors il m'a rédigé un plan qui sûrement, même typographiquement, me paraissait extrêmement bien ordonné et qui comportait 22 chapitres, je n'ai pas pu l'oublier. Je ne sais pas quelle a été ma sotte réaction devant la vue seule d'un plan que je n'avais pas conçu, mais je me souviens très bien que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ceci ramena d'ailleurs la bonne humeur, et Henri Jouvenel me promit de ne plus jamais essayer de rédiger pour moi ni de me conseiller la rédaction d'un plan.
Puisque nous parlons maintenant de votre forme littéraire, encore une autre question de même genre. Je voudrais savoir si, en quelque sorte, les personnages naissent au courant de votre plume, si à mesure que vous écrivez, le roman se développe par la même.
Mais je ne sais pas. Comment voulez-vous que je me souvienne d'une chose aussi accidentelle que les personnages d'un roman ?
Pour en revenir à vos personnages, dites-nous si l'une des principales héroïnes de Claudine à l'école, Mademoiselle Sergent, est née aussi au courant de votre plume, ou si, au contraire, elle a été un personnage de votre jeunesse ?
Elle est à la fois un de mes remords et un de mes bons souvenirs. C'était une femme d'une intelligence plus que remarquable, qui a transformé en quelques mois une école presque abandonnée par une vieille institutrice en une école extrêmement remarquable. Et si nous n'avons pas toujours, et exactement par ma seule faute, été parfaitement amis, du moins j'ai la joie de pouvoir me dire que pendant les dernières années de sa vie, quand elle était à la retraite et une institutrice honoraire, nous avons entretenu une correspondance suivie et parfaitement affectueuse.
J'aimerais savoir également si vous ne l'avez pas montré dans votre livre par une sorte de réflexe inconscient. Vous nous dites vous-même que vous ne vous êtes pas toujours bien entendu avec elle.
Oui, il y avait là cette espèce de vanité que une fille de 14 à 15 ans, ou 13 et 14 ans, on peut avoir à être, vous savez, la mauvaise tête de la classe, l'élève rebelle de la classe. Tout ça pourquoi ? Pour se faire un peu remarquer et applaudir de ses camarades. Je ne vois rien de plus.
Et le délégué cantonal, ce personnage si curieux, l'avez-vous réellement connu ?
Comment ? Il était délégué cantonal. C'est la pure vérité. Il était aussi médecin. Il a été beaucoup de choses, et après avoir été un candidat heureux à la députation des années plus tard, il a été, ma foi, pendant peu de temps, mais il a été tout de même ministre des Finances.
Vous l'aviez déjà pressenti, si je puis dire. maintenant, cette petite Claudine, l'avez-vous inventée ou vous êtes-vous souvenu de vous-même ? Vous vous souvenez, elle mâchait du papier Nil, elle adorait les faines, elle courait dans les bois. Étiez-vous tout ça ?
C'est moi et ce n'est pas moi. ça a peut-être été un petit moi d'autrefois, dont le plus sympathique que je pourrais dire, c'est une sorte de sauvagerie, dirais-je, dynastique. Nous aimions tous, mes frères et moi, et ma mère aussi, nous étions des fervents de la campagne pure, des animaux sauvages qu'on y trouve, des plantes, et de tout ce qui est encore pour moi tellement séduisant, tellement attachant, mais qui devient et qui s'éloigne de moi à mesure que je vieillis.
Comment vivait la petite Claudine dans son petit village? Quel sentiment éprouvait-elle? Était-elle heureuse?
Était-elle
heureuse?
Mais oui, puisqu'elle ne se le demandait pas si elle était heureuse. Donc j'étais heureuse.
Le souvenir que vous gardez de votre jeunesse, est-ce que c'est un souvenir à la Claudine ou bien un souvenir très discret, un souvenir très tranquille?
Oh, c'est un souvenir très sage, très tranquille, très familial aussi. Je ne sais, je n'ai pas donné cette impression-là dans les Claudines, mais ce n'était pas tout à fait ma faute.
Je voudrais faire la part du feu. J'aimerais par exemple que vous me précisiez si certains passages de Claudine, qui sont empreints d'une sentimentalité très sensuelle, sont dus à Willy. Je vous en cite par exemple de mémoire. Lorsque Claudine parle à Aimé et qu'elle lui dit « Ah, comme vous êtes mince, on vous casserait, vos yeux sont bien jolis à la lumière », ou bien encore « Je serre ma chaise contre son épaule, elle passe son bras autour de moi, je presse sa taille qui plie ». On a vraiment l'impression que c'est un garçon qui parle. Est-ce que tout cela est de vous?
Mais oui. Bien entendu. Et pourquoi est-ce que une fille, même si jeune, serait complètement dépourvue des sentiments d'un garçon du même âge? Il n'y a pas de raison pour ça.
En ce qui concerne tous les passages de sentimentalité sensuelle, on ne peut pas dire que M. Willy a réajouté quelque chose.
Non, 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 il n'y a rien à ajouter à cela. Il a suggéré d'autres choses qu'il souhaitait un peu plus vives, mais je crois bien, ma foi et à mon grand étonnement, à moi déjà à ce moment-là, je m'y suis refusé.
Vous aviez donc déjà une conscience de votre style, enfin, une conscience de votre œuvre.
Oh non, je penserais bien que mon œuvre se bornerait à Claudine à l'école.
Vous ne voyez vraiment pas plus loin. Moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, vous jugez Claudine avec un peu de mépris. Enfin, vous essayez de la repousser dans l'ombre.
Peut-être avez-vous raison. Peut-être ai-je tort de rougir, le mot n'est pas trop fort, de rougir des anciennes Claudines ou de l'ancienne Claudine tout court, mais ne vous en prenez qu'à vous-même. Il fallait venir m'interviewer 40 ans plus tôt.
Je vais continuer cependant à faire appel encore à vos souvenirs. Nous nous reportons maintenant en 1901, époque où paraît Claudine à Paris. Vous nous avez précisé, Madame Colette, que Claudine à Paris avait été écrit par vous dans les mêmes conditions que Claudine à l'école, c'est-à-dire sous l'impulsion de M. Willy. Pourriez-vous cependant nous rappeler comment vous avez écrit Claudine à Paris? C'est-à-dire dans quelles conditions morales, dans quel délai?
Dans quelles conditions morales? Je craindrais d'abord que le mot, que l'adjectif moral ne dépasse un peu votre pensée et la vérité. Et puis, je l'ai écrit dans l'inconfort d'un petit appartement de la rue Jacob. Mais je n'ai pas, non, je ne peux pas me rappeler d'une façon ni assez nette, ni assez pittoresque, les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce pauvre petit roman qui s'appelle Claudine à Paris.
En tout cas, n'est-ce pas, il me semble que le seul fait d'écrire un roman sur commande, puisque c'était votre cas, crée pour l'auteur un certain climat moral assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce sujet?
Vous me demandez là plutôt, il me semble, des détails sur ma vie privée au Jacob.
Pas tellement votre vie privée, mais savoir si vous avez écrit ce roman, ce second roman, alertement ou bien contrainte et forcée, avec une certaine difficulté.
J'aime mieux vous avouer tout de suite que quand j'écris, ce n'est pas toujours, Dieu merci, ce n'est pas contrainte et forcée, mais j'aime mieux vous avouer tout de suite que je n'écris pas dans l'allégresse.
Et si je comprends bien, vous avez écrit ce roman avec moins d'allégresse encore que pour les autres.
Oui, mais pas plus d'allégresse ni moins que, par exemple, celui qui l'a suivi et qui s'appelle Claudine en ménage. Et puis après ça, il y a eu Claudine s'en va.
Je voudrais que vous nous donniez quelques précisions sur votre vie personnelle. Par exemple, si nous commencions chronologiquement, vous ne nous avez encore jamais dit où vous étiez né et quand.
Où je suis né? Ma foi, j'ai bien envie de vous conseiller de prendre simplement le Gros Larousse. Ce serait amplement suffisant.
Eh bien, c'est ce que je souhaiterais aux auditeurs de faire. Mais je voudrais savoir maintenant, quand vous avez quitté votre village natal pour la première fois?
Pour la première fois? Quand j'avais 6 ans. On m'a emmené chez une parente, chez ma tante Landois. Ma mère m'a emmené à Bruxelles quand j'avais 6 ans. Et je me souviens qu'un de mes plus vifs souvenirs a été quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est-à-dire, comme il n'y avait pas de chemin de fer dans mon village, il y a eu, par une très belle matinée, un éclairage qui avoisinait les couleurs de l'arc-en-ciel dans la fumée épaisse de la locomotive. Et vous voyez, je ne l'ai pas encore oublié aujourd'hui.
Je voudrais vous demander un autre détail. Vous avez épousé M. Willy à quelle époque et à la suite de quelles circonstances? Je pense que, en ce qui concerne votre œuvre, cette question et surtout votre réponse est assez importante.
Vous le croyez? Moi, j'aurais bien du mal à m'y faire. Je me suis fiancée. Monsieur Willy m'a demandé ma main. Et quand j'avais 15 ans, et ma foi, 2 ans après, nous étions encore fiancés, comme dans les anciens romans.
Si je comprends bien, vous avez donc longtemps connu Monsieur Willy avant de l'épouser. Je me permets de m'étonner alors, n'est-ce pas, de l'espèce de différence énorme qu'il y a eu sans doute entre l'homme que vous avez connu et l'homme tel qu'il s'est révélé à vous.
Oh oui, mais ça, vous allez un peu loin. Je me permettrai de vous arrêter amicalement. Et ma foi, je ne vois rien d'autre à en dire entre ce qui a lieu un jour et ce qui lui succède un lendemain. Il peut y avoir tant de différences sentimentales et autres que je n'irai pas plus avant.
Nous passons donc à une question très différente. Vous ne connaissiez absolument pas Paris avant de vous y établir.
Si, j'y étais venue passer quelques semaines chez la générale Cholleton, qui était la veuve d'un des camarades de promotion de mon père.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression lors de votre arrivée dans la capitale?
Oui, elle n'a pas été foudroyante, que j'en ai gardé encore les traits principaux, non.
Je me souviens avoir lu dans Claudine, à son arrivée à Paris, une phrase très particulière. Vous écrivez par exemple « Le voyage, l'arrivée, le commencement de l'installation à Paris » se perdent dans une brume de détresse. Est-ce que le sentiment que vous prêtez à Claudine était également le vôtre à cette époque?
Oui, il y aurait suffi à créer ce sentiment. Il y aurait suffi, songez donc. C'était la première fois que je quittais ma famille, définitivement. Et c'était la première fois que je déménageais et emménageais. Plus tard, j'ai pu y prendre un certain goût, puisque j'ai déménagé et emménagé 13 ou 14 fois, mais à ce moment-là, je n'avais aucun goût, ni pour le déménagement, ni pour l'emménagement. Et je n'ai pas pu l'oublier.
Vous évoluiez dans quel monde, à votre arrivée à Paris? Quels étaient les gens qui vous fréquentaient votre ménage particulièrement?
Je ne sais pas. Il y avait certainement une bohème littéraire et parisienne. À Paris, oui. Non, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que je n'en ai pas oublié. Ou les principaux personnages, ou plutôt les personnages de moins d'importance, de très peu d'importance, mais qui m'avait plu ou déplu par un trait assez vif, une sonorité, un aspect assez frappant.
Par exemple, est-ce que vous pourriez nous citer quelques noms ou nous rappeler quelques-uns de ces personnages qui vous entouraient ?
Ah oui, dès le commencement de ma vie conjugale, j'ai connu... Il y avait d'ailleurs dans cet appartement triste de la rue Jacob, il y avait un va-et-vient jeune et plaisant. Pour ne vous citer, par exemple, que les commencements, les débuts littéraires ou autres, par exemple, de Pierre Weber... Et de l'excellent et tout jeune à ce moment-là, celui qui est maintenant le prince des gastronomes et qui était Maurice Kuronski. Il y avait aussi Jean de Tinon. Il y en avait bien d'autres qui seraient fastidieux de rappeler maintenant. Il y avait Marcel Schwob, cette sorte d'étoile magnifique et sombre. Il y avait d'excellents musicographes comme Villermoz, comme Stan Golestan. Dieu merci, ces deux-là sont encore vivants. Il y en avait beaucoup. C'était une sorte de va-et-vient, mon Dieu, qui prenait assez rapidement, qui a pris assez rapidement un caractère, dirais-je, industriel, car il ne venait pas uniquement... Ils venaient eux aussi, ils venaient sur commande.
Je voudrais savoir également si, du côté de votre famille, il n'y avait pas à Paris des amis, des parents que vous avez beaucoup fréquentés à cette époque.
Non. Ma famille a toujours eu le goût de vivre, quoique ce fût dans une province étroite, elle a toujours eu le goût, nous vivions entre nous. Et c'est peut-être ça qui m'a tellement vivement dépaysé. C'est pour ça que j'en ai ressenti, sans doute, à quitter une famille que je n'avais jamais laissée. C'est un peu ça, sans doute, qui a créé une atmosphère que je n'appellerai plus maintenant détresse, comme tout à l'heure, mais une impression extrêmement pénible.
Vous m'avez avoué quand même, madame, un jour, si je me souviens bien, que lors de votre arrivée à Paris... Vous avez fréquenté un monde un peu bourgeois, du côté de votre famille, qui vous avait infiniment plu.
Ah oui, du côté de ma belle famille. Oh, c'était des gens charmants. Il s'agissait de l'imprimeur-éditeur Gauthier Villard. Il y a maintenant sa descendance. Il y a des enfants et arrière-petits-enfants qui viennent de lui. Oui, c'est la vérité. J'y passais d'ailleurs d'assez longues vacances en été dans cette famille... Et dans la famille Gauthier-Villard, et je dois dire que, oui, je suis contente de rappeler que je m'étais vraiment fortement attachée à eux tous.
Ces deux premiers entretiens de Colette avec André Parineau ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 20 et 24 février 1950.